Bonjour et bienvenue. Désolé pour cette longue absence. Il faut dire qu'on ne s'est pas revu depuis le. Pardon. Qu'on ne s'est pas réentendu depuis le 20 septembre dernier. Mais nous revoici déjà pour une cinquième saison du supplément au week-end. Cinq ans. Oui. Waouh. Enfin, six, moi, avec du sport, mais. Puis JB, une et demie. Mais bon, voilà. Voilà, on y est. Ça fait un peu bizarre. On va même couvrir pour une deuxième fois une élection américaine.
Ouais, ça c'est la classe.
Ça c'est la classe, hein, quand même. Vous avez annoncé qu'on changeait toute notre ouverture, puisque désormais, Radio FMR ne commence plus. Radio FMR partage sa fréquence 89.1 MHz avec une autre radio. Jusqu'en juillet dernier, c'était avec Radio Radio. Depuis juillet et le ce qu'on appelle la nuit bleue, la Neva, le changement de fréquence, eh ben désormais FMR n'a pas changé de fréquence, mais c'est une autre radio qui est avec nous, Booster FM, avec qui ça se passe largement mieux. Donc on n'a pas de raison de faire une ouverture où il faut expliquer ce qu'est Radio FMR par rapport à l'autre radio et tout ça, puisque en fait Booster, eux, ils commencent à le samedi, ils commencent à 17h. Donc on n'est pas obligé de présenter la radio maintenant. On le fait différemment. On peut avoir notre propre générique. Voilà. Donc ça c'est cool. Ça va le faire. Mais en tout cas, quand même, je trouve que c'était sympa de présenter les programmes auparavant, le programme du jour. Alors je sais pas, Thomas. Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît ?
Ouais. Vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 18 octobre 2008. Nous au programme pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le feuilleton que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Bah merci à vous, bonne lecture à tous.
Enfin des questions intéressantes, merci.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour Ultimatum.
Bonjour Das Creek.
Bonjour du sport. Du sport, il se marre, il est en train de poser son câble.
Oui, c'est un trip, on s'est dit tiens, si on changeait de pseudo pour une fois.
Bon. Ouais, non, bah, parce que tout le monde connaît Thomas alias Ultimatum, tout le monde connaît Das Creek alias Xavier, et personne ne connaît du sport alias du sport. Donc on s'est dit, il n'y a pas de raison. Voilà, pour cette cinquième saison donc du supplément week-end, on a décidé de faire une ouverture qui pète un peu plus et qui soit plus dans l'esprit série qu'on admire. Voilà, je pense que c'est plutôt réussi et que cela envoie un peu. On a aussi changé le générique. Alors le générique que vous entendez, donc c'est un vieux morceau de Easy Roller. En fait, il y en a deux qui sont mixés. Le précédent était plus... T'as un truc qui pétait plus comme ça. Et donc pour cette cinquième saison, avec son générique particulier comme toutes les saisons et tout le reste, eh ben, on s'est dit, il faudra trouver un thème. Alors le thème pour la première saison, c'était la Genèse, forcément. Ensuite, il y a eu le retour, la vengeance, puis la malédiction. Le thème de cette émission, eh ben, c'est la rénovation.
Non, pas du tout. On a dit que c'était reset et match.
T'es sûr?
Ah oui. Ouais, je crois que même du sport, il avait proposé Shoot Again d'ailleurs.
Non, mais parce que ça, c'est un gag qu'on a déjà fait, donc ça, je trouve que c'est un petit. Enfin, c'est Thomas qui a trouvé que c'était lourd à l'écriture, donc
oui,
on va la jouer.
On aime bien donner une seconde chance aux vannes.
Voilà, donc on va la jouer au dé. Au dé électronique, voilà. C'est un engin qui se dégoupille. Alors, on va prendre 1-2 pour la rénovation, 2-3 pour reset et match, et 3-4 pour reset et match, et 5-6 pour shoot again, d'accord?
Allez, si ça te fait plaisir.
Bon, attention. On l'entend pas. On va le relancer. Alors, il faut taper très fort.
Ouais, ça fait bip bip. Ça fait 6.
C'est du sport qui gagne avec Shoot Again. Voilà.
Mais on avait dit que c'était un titre de saison pendant une Coupe du Monde.
Ah, merde.
C'est pas la Coupe du Monde cette année.
Désolé.
Merde, il va falloir refaire le sketch.
Oh, mince. Voilà, ceci dit, on a une saison qui est particulièrement remplie. On avait dit qu'on aurait une élection américaine le 1er novembre. Ne manquez pas, ce sera une spéciale indécision 2008 aux États-Unis, avec en interview Riccardo Borchielli pour DMZ.
Dessinateur. Hein.
Voilà, le dessinateur qui est italien. Attention, le 8 novembre, on va parler de Death Note. Pour la sortie du 12e tome.
Avec Manu qui nous fera le plaisir de venir en parler chez nous.
Le 22 novembre, une case en moins, alias Davy, Didier
Poulpe.
Et Monsieur Poulpe seront là. Donc on a préenregistré, on a reçu Nerds avec une interview très syndrome de Tourette. Et on aura en même temps l'organisateur, normalement, du Toulouse Game Show, puisque... Le 29 novembre, et ce sera l'émission numéro 178, c'est un numéro qui est particulier pour moi, nous serons en direct, en extérieur, si tout va bien, pour le Toulouse Game Show, le 3 janvier 2009, ouais, on a le temps, je sais, ce sera une spéciale ORTF, le 24, on sera en Angoulême, alors peut-être on sera en extérieur, en direct, du moins moi et Thomas, du sport prendra la suite, le 31 janvier, 7 février, ce sera le débrief d'Angoulême, le 4 avril, une spéciale manga, et le 27 juin, une spéciale blog BD, voilà.
Ouais.
Et pour ce qui est de l'absence qu'on a eue, moi je tiens à dédier cette émission particulièrement à la mémoire de mon grand-père, qui nous a quitté, la famille tient à lui exprimer, on lui manque beaucoup, voilà.
C'est quoi, Xavier, ce bandeau en bas marqué samedi 24 Herbalizer au phare?
Ah oui, non, mais j'ai voulu faire comme les chaînes d'actualité pour que ça soit dynamique. De temps à autre, ça annonce, tu sais, les concerts et tout ça. C'est comme le logo blanc là qui est en bas. En fait, c'est pas le carré blanc, c'est pas pour la censure. C'est parce que c'est le placeover pour le nouveau logo.
Et t'as bien mis le filtre anti-flicker sur le déroulant.
Ah non, ça je déteste. Non, pas de filtre à Gérard Pulicino. Non, moi je le fais au bob, au disinterlace bob.
Ouais,
ça
mais
marche
ça,
très
ça c'est des entrelacés, regarde. Si...
Non, mais tu le fais au disinterlace bob, je te montre, ça marche très très bien. Hein,
d'accord, si ouais, tu montreras bien.
C'est pas parce que c'est une nouvelle saison qu'on a supprimé les anciennes. Hein. Vous avez toutes les archives du supplément week-end sont consultables sur supplementweekend.tk. Vous tapez supplément week-end dans Google, vous tombez forcément sur nous. Rajoutez FMR ou MP3, ça aide. Mais bon, tu parles, Jacques. Hein. On va baisser le tempo avec une bande dessinée. Qu'on aime bien, c'est le journal de Carmilla. Le 3e tome est scénarisé par Loris Muraille et dessiné par Laurel. Le 3e tome donc s'appelle Compenser Carbone et vient de sortir chez Vent d'Ouest. Carmilla, c'est une adolescente, elle a 13 ans, elle est en 4e, a des notes honorables et des parents franchement cool. Plutôt sage, réfléchit sur elle-même et sur le reste du monde. Elle consigne ses pensées dans un cahier. Sur ce qui l'entoure, sa petite sœur Mina, avec qui elle est très complice, préfère encore, elle, dire ce qu'elle pense à voix haute. Ça est d'une franchise qui désarçonne, mais qui est loin d'être dénuée de réflexion, finalement. Sans compter le petit frère, le nouveau-né, qui s'appelle Bela Lugosi, et tout ça parce que le père est un peu trop fan de ces deux films de série Z d'horreur. Carmilla est une adolescente. Elle a des amis à qui... Elle confie ses peines, Jenny, Angélique, Stéphie. Enfin non, c'est juste des copines, après tout. Elle a la tête qui tourne parfois, en l'occurrence, son cœur penche pour le beau Jonathan. En plus d'avoir l'angoisse de trouver du boulot, c'est aussi l'angoisse du développement durable qui enquiquine actuellement l'esprit du père de Carmilla. À vrai dire, ça l'emberlificote tellement l'esprit qu'il a décidé de faire bouger toute sa famille vers un retour à la Terre. Tiens donc... Ça me fait penser à deux auteurs. Et d'ailleurs, ils font un caméo dans l'album. Fillon, la ville qui, telle Sodome et Gomorre, pollue l'esprit et la planète. C'est ainsi que Carmilla, sa petite sœur aux répliques pleines de bon sens, leur tout jeune frérot et sa maman se retrouvent à vivre à la campagne. comme les arrière-grands-parents. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas d'eau courante, et pire que tout, même pas Internet. Alors malgré les miracles des légumes bio, des éoliennes, des panneaux solaires et des petits lapins dans leur clapier, je doute que les angoisses paternelles arrivent à compenser le petit confort citadin auquel elles étaient habituées. Faut-il sauver la planète au détriment de la famille ? À savoir. Avant de se mettre à dessiner le journal de Carmilla, Laurel a collaboré avec Cha et Melaka au journal de Spirou. Elle est très rousse. Son vrai prénom d'ailleurs est Laureline. Vous saurez que ses parents donc l'ont plongée quand elle était toute petite dans la bande dessinée franco-belge. De ses grands yeux, une superbe chevelure rousse à demi camouflée sous une grande casquette, Laurel pourrait être directement sortie d'une de ses planches. En fait, elle nous a littéralement troublés pendant l'interview. Le dites pas à nos copines.
Laurel, quoi, tu parles des yeux turquoises?
Laurel a un blog, bloglaurel.com, L-A-U-R-E-L, et on l'a interviewé en janvier dernier à Angoulême. Elle nous a littéralement troublés, hein. Je ne sais pas comment le placer autrement. Laurel, bonjour.
Bonjour.
On va te poser la première question.
Alors, le journal de Carmilla était un premier album pour toi et pour le scénariste, je crois, si je ne me fais pas d'erreur. Comment les choses se sont-elles passées ?
En fait, j'avais un blog et la directrice de collection, Valérie Aubin, elle lisait mon blog et elle connaissait le travail de Loris Murray, qui est écrivain pour enfants, en fait, qui a écrit Golem et des trucs super connus. Donc, comme elle aimait bien ce qu'il faisait, elle a pensé qu'on pourrait faire un projet ensemble et que ça collerait. Donc, elle me l'a présenté. Enfin, il avait déjà créé le personnage, donc je l'ai mis en dessin, ça lui a plu, on a travaillé ensemble, et puis maintenant ça marche plutôt pas mal en fait. Le 1, il a été réimprimé, c'est cool. Le 2, ils se vendent bien, donc ouais, ça va, je croise les doigts pour l'instant.
Le rythme des planches oscille entre deux extrêmes, c'est-à-dire il y a le côté dialogue drôle, les échanges des fois avec des petites piques un petit peu acides, pas piquer des hannetons. Et d'un autre côté, il y a le narratif de journal intime, c'est-à-dire on a juste une planche unique, une illustration unique avec du texte dans un coin. Est-ce que c'est une volonté de dérouter le lecteur ?
Ça, je pense c'est plutôt Loris Murray qu'il faudrait demander, parce que c'est lui qui a... Mais comme c'est un écrivain, il écrit facilement beaucoup de textes, donc c'était bien le coup des pages d'illustration. Et puis après, c'est partagé, il y a des lecteurs qui ont dit qu'ils aimaient bien, d'autres qui ont dit qu'ils étaient un peu déçus, donc du coup, on en a mis un peu moins dans le 3. Mais je trouvais que c'était intéressant à faire, en tout cas à dessiner.
Alors, tu vas me dire, c'est encore une question qu'on devrait poser au scénariste, mais je trouve que c'est plus drôle de le poser à la fille, puisqu'elle est dessinatrice et qu'elle est passée par tous les états des personnages de l'histoire. Alors, la petite sœur qui est plus intelligente que la grande, Carmilla, c'est parce que l'adolescence est l'âge bête.
Je peux pas dire, j'ai pas de sœur, mais et puis mon frère était pas plus intelligent. Mais l'auteur, l'écrivain, il a 4 filles. Donc, qui sont grandes maintenant, qui ont à peu près mon âge, donc je pense qu'il s'est vachement inspiré de ces gamines.
Par rapport au nombril, l'humour est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vachard. Est-ce que toi, tu as bien vécu ton adolescence ? Tu te reconnais plus dans le journal de Carmilla que tu dessines ou dans les nombrils ?
Dans rien des deux. Moi, mon adolescence, c'était, j'étais toujours toute seule dans la cour, je parlais à personne. Je lisais des bouquins dans mon coin, je regardais des films, donc vraiment c'était ni les nombrils ni machin, j'avais pas de copine. Mais par contre, les nombrils, c'est génial.
Est-ce que des fois tu interviens dans le scénario ?
Non, je peux. Non. Enfin, je peux mettre des petits gags derrière, mais juste en dessin en fait.
Ah, d'accord.
Donc, genre le chat qui essaye de manger en parallèle avec ce qui se passe, ou des trucs comme ça, des petits gags derrière. Je mets aussi beaucoup de clins d'œil. Donc des gens que je connais, des blogueurs, des dessinateurs, comme ça après je leur donne les planches, puis c'est cool.
Alors est-ce que... ah oui, tu donnes tes originaux en plus. Alors est-ce que les réactions que tu as sur ton blog, des fois, motivent ton scénariste ?
Je suis pas sûre qu'ils lisent le blog. Je sais pas s'ils suivent.
Une question en l'air, je passe la main. Vas-y, vas-y Thomas.
Tu dessines souvent les filles assez rondelettes par rapport au, par opposition aux mecs qui, en général, qui sont plus filiformes en fait, qui ont des visages plutôt ovales. En général, même dans ton blog aussi. D'où ce choix graphique, ou alors est-ce que c'est complètement, c'est pas, ça correspond pas du tout à la réalité?
Ben à la réalité.
Est-ce que c'est une complètement fausse, ou est-ce que c'est d'où ce choix graphique, ou est-ce que tu t'en étais aperçu? Est-ce que...
Ouais, je sais pas. Ben en fait, je trouve que les filles c'est plus joli quand c'est un peu rond, et puis j'aime bien les garçons grands et maigres, alors je pense qu'inconsciemment je dessine ce que j'aime bien. C'est tout.
Thomas, tu te fais draguer, pose une autre question pour voir.
Là, on a croisé Monsieur Had au Hôtel Mercure hier.
On coupera au montage.
Tu as un trait très épais et très nerveux en fait. Et sur ton blog, tu utilises souvent des ambiances assez monochromatiques. Et curieusement, dans le journal de Carmilla, c'est très très coloré. Comment as-tu fait le passage entre les deux? Est-ce que c'était une volonté de ta part de t'éloigner complètement de ce que tu faisais dans ton blog?
Non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai présenté des planches pour Spirou, par exemple, c'était plutôt dans le style de Carmilla avec des couleurs plutôt jolies et tout ça. Le blog, c'est vraiment pour me lâcher, donc je suis pas sûre que j'ai... Enfin, je pense que c'est plutôt le blog qui m'a permis de m'éloigner de ce que je faisais d'habitude, en fait. C'est plutôt l'inverse, voilà.
Et comment tu fais dans ce cas-là, quand d'un côté tu dessines pour travailler, et puis de l'autre côté tu dessines pour t'amuser? Le blog reste vraiment une bouffée d'oxygène nécessaire, justement, par le fait que maintenant tu deviens professionnel?
Oui, bon, en fait, je suis vraiment accro à ça. C'est pas pour continuer à avoir des gens que je le fais, quoi. C'est vraiment pour moi. S'il y avait plus personne qui lisait, je le ferais quand même. D'ailleurs, je dois me freiner pour pas mettre trop de notes et tout, parce que, enfin, j'adore ça. C'est vraiment mon truc, quoi. C'est, je sais pas, j'aime bien la, je sais pas. Oui, c'est une récréation, en fait.
À une récréation. Donc dans ce cas-là, une question qui va beaucoup intéresser Jacques Glénat sur la productivité de ses auteurs, c'est combien de temps tu passes pour dessiner une note et combien de temps tu passes pour lire tes flux RSS?
Trop. Beaucoup trop. Ah, j'ai essayé de... Enfin, là, je me suis... On s'est mis des règles avec mon copain, c'est qu'on doit... On fait une soirée sur deux, pas d'ordinateur, tout ça pour... Parce que sinon, c'est trop prenant, quoi. C'est comme une drogue. Les RSS, les blogs, j'en lis environ 80... Même plus, peut-être même 100. Et enfin, je regarde tout le temps. Et puis dessiner pour le blog, ça me prend un temps fou aussi. Mais bon, en même temps, je dessine rapidement, donc ça va pour les planches de Carmilla, ça va vite. Quoi.
C'est comme Boulet, t'as appris à accélérer grâce au blog?
Bah, je pourrais pas dire, parce que j'ai commencé en même temps les deux, donc c'était en parallèle, donc il n'y a pas vraiment de changement. Puis j'ai commencé par le blog, alors je sais pas. Mais je pense que de toute façon, je dessine rapidement. J'ai pas le choix, de toute façon, je m'adapte.
Tu nous disais une journée sur deux sans ordinateur. Je pense que tu as rattrapé beaucoup de retard avec les 24 heures de la BD. Comment s'est passée l'expérience? C'est une expérience que tu retenterais l'année prochaine?
On explique pour ceux qui nous écoutent dont on n'a pas précisé, 24 heures de la BD, c'est un marathon imposé où il doit faire 24 pages autour d'un thème.
Ah oui, je recommencerai avec plaisir, parce que c'était vraiment chouette en fait. De toute façon, je travaillais plus facilement la nuit, donc là on a passé une nuit blanche. Et c'était intéressant, de toute façon, comme mon copain le faisait aussi, du coup on est on s'aidait, quoi, enfin on se motivait l'un l'autre, quoi.
Ah, flag, il y a eu dopage.
Non mais on se motivait, c'était bien. L'année prochaine je le referai.
Alors pour en revenir à Carmilla, les sœurs qui décident d'élever le tout petit frère pour qu'il soit un garçon, un vrai mec et tout ça, c'est... d'un certain côté, c'est... Oh, il y en a marre, la génération Dolto. Carlos y est mort et enterré.
C'est horrible. Bah, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait le scénario, donc c'est pas... Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Hein. C'est à lui qu'il faut demander.
Carmilla Moulard de Beauté en Touche.
Le projet Carambole avec Chat et Mélaka chez Spirou, c'est une aventure que tu retenterais pour un album collectif? Est-ce que le principe du, même dans un blog collectif, est-ce que le principe t'intéresse, ou est-ce que c'est une page que tu veux tourner, que tu préfères te consacrer à des albums plus classiques, en collaboration plus classique avec un scénariste?
Bah, moi j'aimerais bien, mais Bah, en fait, c'était vraiment une rubrique qui était... Enfin, Spirou, ils nous ont dit, c'est pour un an, et puis après, on arrête, quoi. Donc déjà, on a pu tirer un peu plus d'un an, mais c'était vraiment pour la presse. D'ailleurs, je suis pas sûre que ça pourrait marcher en album, en fait. Mais sinon, ce serait plaisir.
Donc, c'était dans un cas très particulier où Spirou avait eu un rédacteur en chef temporaire... qui a eu le temps d'essayer plusieurs expérimentations de ce côté-là et ça a été un peu enfin ça a été une très très belle aventure de ce côté-là et ça a amené un peu de côté féminin ce qui est sympa.
Pourquoi temporaire, c'était un lot.
Ah oui mince. je confonds. Malorel, On te remercie beaucoup. Et contrairement à ce que tu crois, oui, les garçons, ils lisent aussi le journal de Carmilla. Et il n'y a pas de quoi en rougir.
Bon, bah, c'est cool.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Voilà, on a eu un problème de diffusion au bout d'un moment, on s'en excuse. Sur le podcast, on le remettra le son au propre. D'ailleurs, il y a eu deux blancs, deux interruptions, mais ça n'a pas coupé les phrases. On s'en excuse. Mais néanmoins, Thomas s'est fait draguer. Ouais, bah il a pas réécouté, donc il réécoutera l'incident.
Pourquoi moi spécialement?
Oh, ça fera l'objet du prochain générique. Hein.
Ah, ok.
D'ailleurs, JB n'a pas encore écouté le nouveau générique. Hein? Non, ton micro est éteint. Tu as un interrupteur sur
Attends,
le côté.
Attends, il essaie de faire Michel Drucker. Tu as coupé la chic.
Et là, ça marche. Oui, ça marche.
Et voilà.
Et non, je sors du boulot à ce moment-là.
Mais oui, je sais, mais tu pourras réécouter sur podcast et tout ça.
Tout à fait.
Enfin, bon, le journal de Carmilla, donc, qui est édité chez Vent d'Ouest, est scénarisé par Loris Muraille et donc dessiné par Laurel. Le blog de Laurel, c'est blog Laurel, LAUREL.com.
De toute façon, vous tapez Laurel, tellement connu, son blog, que vous atterrissez dessus direct.
Chercher le journal de Carmilla. Donc le troisième tome s'appelle Compenser Carbone et donc vient de sortir. Et on l'a interviewé lors du festival d'Angoulême. Et puis voilà.
Pour vous donner pour vous donner une idée du physique de Laurel, vous allez dans les billets de boulet et quand il dessine ses confrères blogueurs, c'est toujours la nana avec une grosse poitrine avec un grain de beauté sur un des deux seins. Avec un chapeau avec une peau de vache.
Oui, plutôt, oui. Enfin, des fois, elle a une casquette.
Aussi.
J'ai des nouvelles d'une autre fille blogueuse.
Alors,
j'ai des nouvelles d'Aurélia Horita.
Elle est blogueuse ?
Enfin, plus exactement, elle publie son journal en ligne. Elle publie son journal en papier, pardon.
Ah, donc c'est une dessinatrice.
C'est une dessinatrice. Aurélia Horita, on l'a reçue sur ce plateau avec Frédéric Boilet, avec son grand amour. Oui, grand, au moins 20 cm de plus qu'elle.
J'ai eu peur.
Je sais. Et c'était pour Fraises et Chocolat. Fraises et chocolat, c'était l'amour dans tous les sens et tout ça, etc. L'amour et physique. Le sexe surtout dans tous les sens. Et c'était aux impressions nouvelles. Il y a eu deux tomes. Le troisième tome donc du journal d'Aurélia Horita s'appelle Je ne verrai pas Okinawa. Chenda, donc c'est son petit nom, et ben prend une fois de plus l'avion pour retrouver son amour, Frédéric Boilet, qui vit là-bas quelque part au Japon. Et en faisant escale par Londis Row, elle est soudainement prise d'une folle envie, celui de relire le 1984 de George Orwell, et si possible en VO. Et si la publicité publiée sur le sac de la librairie lui rappelle combien la novlangue est actuelle, elle ne se doute pas qu'à 10 heures d'avion de là, eh ben elle va en faire une amère expérience. Car il n'y a pas que la France qui n'aime pas quand les étrangers s'installent chez elle. Ceux qui sont allés au Japon ont bénéficié de l'expérience d'un pays superbe et de ses habitants très polis. Mais en fait, ce pays est conservateur, xénophobe dans l'âme, mais aussi terriblement procédurier dès qu'on a affaire à sa bureaucratie. Qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, dans les grandes entreprises, je peux vous dire, c'est pas triste. Hein. Ajoutez la contaminante parano antiterroriste des États-Unis après les attentats de 2001, et vous verrez que la situation devient intenable dès l'aéroport si on entre dans certaines cases. Grâce à l'administration de Bush le fils, le métier de douanier est redevenu un métier particulièrement con. C'est exactement ce qui se passe pour la pauvre Aurélia. Alors qu'elle présente son passeport à Tokyo Narita, Elle est emmenée dans les bureaux à part, car elle est suspectée de faire de trop longs voyages touristiques au Japon. Elle aura beau essayer de se justifier, d'expliquer qu'elle est amoureuse, que son amour vit au Japon, qu'en plus elle trouve ce pays formidable, qu'elle a déjà un travail en dehors du Japon qui lui permet de vivre, mais aussi d'exercer où elle veut, alors peu importe, elle ne vole pas le travail d'un Japonais. Et cela ne suffit pas, car elle va non pas de Caribe dans Scylla, mais d'Orwell en Kafka. Chenda apprendra à ses dépens que dans les méandres de l'administration japonaise, les seuls visas touristiques délivrés sont pour 3 mois, mais qu'on vous demande de ne pas les respecter, c'est-à-dire si possible de ne pas remplir les 3 mois. Que le manga n'est pas un art typiquement japonais, il n'est même pas reconnu d'ailleurs par l'administration culturelle, et qu'on ne saurait faire plus obtus qu'un douanier. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Fraise et chocolat, les 2 premiers tomes de son journal racontant son amour avec Frédéric Boilet, rayonnait d'un enthousiasme communicatif. Ce 3e volet aborde quelque chose de violemment plus terre-à-terre que l'amour et le sexe. Il se lit nettement plus vite, mais laisse une belle trace de baffe sur la joue. Aurélia Horita ne verra pas Okinawa, et on est triste pour elle. Ça vient de sortir aux éditions des Impressions Nouvelles. Midi et 28 minutes, chapeau belle de radio, vous écoutez FMR, c'est le supplément week-end, nouvelle saison. Season opening, forthcoming this year. Spécial Toulouse Game Show, spécial ORTF, et surtout une spéciale États-Unis, le premier. En attendant, on n'y est pas encore, on est toujours dans les chroniques de bande dessinée. Et juste pour vous signaler qu'il n'y aura pas de coupure publicitaire, l'ordinateur est en panne, voilà.
Oui, c'est Windows, hein.
Apollo, scénario, Bruno, dessin, ça s'appelle Commando Colonial, c'est une nouvelle série. Bruno est venu dédicacer son bouquin il y a 3 semaines, on en a parlé dans cette émission, pour Commando Colonial. Donc le premier tome s'appelle Opération Ironclad, ça sort dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud. Et ça se passe à Madagascar. Alors Madagascar, c'est une grande île sur le flanc sud-est du continent africain. C'est un long lambeau de continent détaché dans l'océan Indien. Ça, vous savez quand même vous y retrouver sur un atlas. Ce que vous avez peut-être oublié, c'est que cette grande île faisait partie de l'Empire colonial français depuis 1895. Et comme la plupart des colonies françaises africaines, exception faite du Maghreb malheureusement, elle accède sereinement à l'indépendance en 1958, puis en 1960. Mais entre-temps, il y a eu des guerres mondiales. La première fit appel à des indigènes des colonies pour remplir les tranchées du nord de la France. Thomas va en parler tout à l'heure. Puis la deuxième. Cette guerre bizarre, la drôle de guerre, où les pays se faisaient envahir en moins d'un mois, où la France se retrouva coupée en deux dans sa métropole, et où le lointain régime de Vichy a toujours droit à la fidélité des colons et de l'armée française, s'il vous plaît. À l'exception d'un général Fénelon qui est allé déserter sur la perfide d'Albion. Mais bon, l'Empire britannique a toujours été la principale rivale de l'Empire colonial français. On sait qu'ils vont nous dépecer, qu'ils vont tout faire pour nous détruire. Méfiance, ces Anglais, méfiance. Ça vous donne une idée de ce que peuvent ressentir les Blancs dans cette grande colonie. Faut dire qu'en 1942, les États-Unis venaient de se prendre une tannée à domicile par les Japonais et que rien ne semble les arrêter. Que les Allemands arrivent même plus loin en Russie que ne l'a été Napoléon, et que le vieux maréchal Pétain semble plus à faire la paix avec les Allemands qu'à s'allier avec les Anglais. En même temps, si Madagascar est une très grande île, la flotte militaire n'est pas si importante, alors autant éviter de se faire envahir trop vite par l'Axe. Courage, sauvons les apparences de l'État français. Si ce n'est 2 individus, Antoine Robillard et Maurice Rivière, qui semble hébergé chez Michepin avec toute l'attention de ce dernier, car ces individus ont débarqué clandestinement d'un navire anglais en toute discrétion, et leur contact leur a promis d'être la porte d'entrée pour ceux qui se réclament les gaullistes de Madagascar. Bref, ce sont deux agents du BCRA, le Bureau de renseignement, central de renseignement et d'action. C'est le service d'espionnage de la France libre et aussi la coordination de la résistance. Et ils veulent voir si effectivement un mouvement de résistance sur place serait capable de faire basculer le pouvoir maréchaliste de Madagascar pour rejoindre les alliés. Après tout, d'autres colonies ont basculé, comme l'Afrique équatoriale et les îles du Pacifique. Alors, est-ce qu'Antoine et Maurice vont tomber sur des nantis avec des envies romantiques de résistance ou sur un mouvement prêt à balayer les autorités vichysoises de Madagascar? Le dessin de Bruno est reconnaissable à distance respectable, mais il aborde encore une fois un genre totalement différent. Après Biotope, avec le même scénariste Apollo, où il était question d'une science-fiction, Inner City Blues, où c'était le New York des années 70, et Junk, qui était en fait ni plus ni moins qu'un western dans la neige, c'est une mémoire récente de l'histoire française qu'il traite ici. C'est-à-dire même du dessinateur, Apollo voulait ainsi traiter les colonies françaises. Le cadre choisi est une première en bande dessinée, je ne pense pas qu'on ait parlé justement de la résistance à Madagascar, et la série promet d'être vraiment passionnante. Commando Colonial, Opération Ironclad de Apollo et Bruno. C'est dans la collection Poisson Pilote chez Dargo. Thomas pourrait en parler, mais je crois qu'il n'a pas lu.
Non, j'ai pas encore lu.
Confirmation de Thomas, merci. Parler de retour à la nature avec le journal de Carmilla. Ah là, c'est un naturiste très connu dont on va parler puisqu'il s'agit d'Ernest Thompson Seton. Une série inspirée par Yoshiharu Imaizumi A au dessinateur Jiro Taniguchi, qui s'est inspiré en fait justement de la biographie de Seton et des bouquins qu'il a écrits. Seton, le naturiste qui voyage, le quatrième tome, est sorti depuis début septembre, je vous le reconnais. Et le quatrième tome s'appelle Monarque. L'ours du mont Taïlak. Ça vient de sortir dans la collection Made in Chicana. On ne va pas revenir sur Seton. Donc c'est un dessinateur naturaliste. Non, il se trouvait qu'il remontait pas un poil dans la nature, mais il faisait des dessins très précis des animaux. Il faisait une analyse scientifique sur leur mode de vie, leur comportement et tout ça. C'est vraiment un scientifique de ce côté-là qui a inspiré les Américains, qui a créé par ses articles le documentaire animalier. Il est aussi le co-inspirateur avec Baden Baden du mouvement scout, avec Baden Powell, pardon, du sport qui était en train Baden de sourire. Baden. Ça n'a rien à voir. C'est une guerre. Et il y a une raison pour cela. Dans cette série, c'est un tome entier où il est complètement en retrait. Il n'est même pas spectateur d'ailleurs, il est juste auditeur d'une histoire. Une histoire racontée par un témoin du première main à lueur d'un feu de camp, une belle nuit de 1886 dans les contreforts des Rocheuses côté Pacifique. Le personnage principal, c'est un ourson apprivoisé qui s'appelle Jack, qui deviendra monarque, un grizzly qui sèmera la terreur dans les montagnes californiennes, qui malgré son immense taille, qu'il atteindra, arrivera à disparaître, à échapper à pratiquement tous ceux qui le traquèrent. C'est une intelligence animale exceptionnelle qui lui ont permis d'éviter bien des pièges et de narguer des hommes. Comment arrêter une telle force de la nature? La panique qu'il a semée chez les éleveurs fut telle qu'il a initié une gigantesque battue menant à l'extinction des grizzlies de Californie, qui ont été bien souvent massacrés par des cow-boys surexcités et appâtés par une prime fabuleuse. Cette histoire n'est pas uniquement celle du dernier grizzly de Californie. Il y a un oubli, ou même la traduction francophone de Kana, qui est pourtant soigneuse dans ses notices, hein, quand même, dans la collection Made In, a fait une impasse étonnante. L'histoire de Monarque le Grizzly a rencontré la grande histoire, pas uniquement quand William Randolph Hearst le magna de la presse finance les trappeurs. Oui, le même. William Randolph Hearst qui a créé le King Feature Syndicate.
Qui a, qui a inspiré Rosebud.
Voilà, qui a inspiré effectivement donc
Charles Foster Kane.
Voilà, mais aussi celui qui allait financer la guerre contre l'Espagne en 1898 uniquement pour vendre ses journaux. C'est cet épisode-là justement hein, qui a inspiré Orson Welles. Non, ben il se trouve que Monarch rencontra l'histoire dans la postérité car c'est lui qui est représenté dans le drapeau de l'État de Californie. C'est-à-dire que la mise en scène de sa reconstitution au Muséum d'Histoire Naturelle du Golden Gate à San Francisco, si vous avez la chance d'y aller, est dessinée dans la toute dernière case et c'est le drapeau de l'État de Californie, c'est-à-dire l'étoile République California Republic est marquée et le trait rouge qui est en dessous. On ne peut pas le manquer. JB, justement, il le regarde et bah oui. C'est le drapeau de Californie. Toi, tu, je sais pas si tu le connais justement, mais c'est ressemble.
Non, c'est la première fois que je le vois.
C'est en fait, c'est le drapeau a été refait en 1907, si je me souviens bien, sachant que c'est inspiré d'un drapeau original par les colons qui s'étaient libérés du joug espagnol avant de rejoindre les États-Unis. C'est quand il y a eu ce drapeau original a disparu lors de l'incendie de San Francisco en 1905, et quand il y a eu un débat, c'est il nous faudrait nous aussi un drapeau. C'est cette reconstitution qui a été qu'on a choisi et on a dit ben voilà sur telle mise en scène avec l'étoile du Texas et tout ça. Bon, petit regret quand même. C'est étonnant d'ailleurs que ce détail ait échappé au traducteur et d'ailleurs à l'auteur aussi. Petit regret sur ce quatrième tome. Taniguchi se relâche sur la qualité du détail. On sent dans certaines cases que les planches sont traitées au plus vite, plus sommairement que pour le premier tome. On a toujours ce souffle dans cette série, cet appel des grands espaces. Ce bouquin est une lecture passionnante, aussi bien pour les détails sur la vie quotidienne des trappeurs que pour les parties romancées de la vie de cet ours gigantesque. Seton, le naturiste qui voyage, naturaliste qui voyage, quatrième tome, Monarch, l'ours du mont Talak, par Jiro Taniguchi, aidé de Yoshiharu Imaizumi. C'est traduit en France dans la collection Made in Chicana.
Alors, ça me rappelle un autre tome de Seton où Seton était à la poursuite d'une meute de loups. On dirait que l'histoire, les deux histoires se ressemblent.
Pas mal, ouais. Sur la traque d'une bête sauvage, sur, bah, c'était le tout premier, hein, Lobo, si je me souviens bien. Oui, oui. Et d'ailleurs, hein, Lobo, le personnage, le nom est resté puisqu'on le retrouve régulièrement dans pas mal de romans, de séries. Même dans de la SF. Et en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, justement, Seton, il est complètement à part. C'est des trappeurs qui savent piéger les animaux et qui les piègent en général pour les tuer ou pour revendre leur fourrure, qui font ça. Mais il y a quand même un respect hein, par les trappeurs de l'animal. C'est passionnant, ça vaut vraiment la lecture. C'est un gros tome. On doit faire dans les 350 pages à vue de nez.
Oui, on disait en off tout à l'heure que ça ressemblait un peu à la saga Harry Potter, c'est que ça grossissait à chaque nouveau tome.
Enfin bon.
Bah, tout comme sur notre série, Le Sommet des Dieux, là, c'est le même format, la même épaisseur.
Non, mais il n'y a que deux tomes pour Le Sommet des Dieux. Le
Sommet des Dieux, t'en as beaucoup plus.
Pardon, je confonds avec l'autre série justement qu'il a fait sur l'alpinisme. Pardon,
Attends, il y a JB qui vient de te moucher sur les mangas. Alors là, c'est. J'applaudis.
Non, Taniguchi est un des rares auteurs que je suis.
Ah oui, forcément, on parle de lui dans Télérama. Entre autres.
Alors, on va continuer la partie bande dessinée avec Retranché. C'est une bande dessinée sortie chez Ankama, dessinée et scénarisée par Cafard. Et c'est édité sous le label Araignée dont s'occupe Run. Et il est question de Jérôme qui vient d'être plaqué par sa copine. Il est incapable de réagir, il passe son temps à se morfondre chez lui, et il va plus au travail. Et il se complaît dans ses soucis. Au même moment, parallèlement, une armée garde ses positions derrière sa tranchée. Au loin, le brouillard. Les ordres attendent que l'ennemi se réveille. Alors vous allez me dire quel rapport à la choucroute entre les deux histoires. En fait, les deux histoires sont imbriquées car l'histoire de la guerre des tranchées est une métaphore de ce qui arrive à Jérôme dans le milieu contemporain. Pour la partie historique, donc c'est un mélange des guerres napoléoniennes pour les costumes, etc., et de la Première Guerre mondiale pour les tranchées. Donc là, c'est une zone de guerre intemporelle, on va dire. Et ce qui frappe dans cette bande dessinée, donc c'est ce parti pris scénaristique, puisque le parallèle entre les deux n'est pas flagrant au début. C'est à partir du tiers de la BD, tu commences à comprendre les ramifications. Tiens, ce que vivent les soldats en attendant l'ennemi, en étant un peu cloîtrés derrière leurs tranchées, ça rappelle un peu ce que vit Jérôme dans le milieu contemporain, puisqu'il refuse de sortir de chez lui, il se morfond, il est un peu replié sur lui-même, tout voûté là. Et quand t'as compris le parti pris, tu te reprends. Tu te surprends à relire le début pour ah ouais d'accord, ça a été déjà dans le début tout ça. Et l'autre détail qui frappe dans cette bande dessinée, c'est le graphisme, puisque le trait déjà à base de hachures faussement maladroit, moi j'adore en tout cas ce parti pris. Et au niveau des couleurs, donc il a une science de la lumière, puisque c'est tout dans des tons désaturés pour la partie historique. Après, on va dire que la partie contemporaine convainc un peu moins, puisque c'est un peu plus attendu, un peu plus déjà vu avant, un peu plus convenu. Mais c'est quand même, c'est une BD quand même qui vaut le détour. Il a un sens du cadre, du découpage aussi qui est vraiment pas mal. Et après, c'est une histoire. Bon, le scénario, on va dire qu'il est un peu léger, puisqu'à partir du moment où t'as compris le postulat de départ, bon, après, c'est vrai que ça s'étend un peu en longueur, mais c'est le prétexte pour montrer une galerie de personnages assez bizarres, dont un qui est chargé de retranscrire les aventures, une espèce de truc cronenbergien qui tape sur une machine à écrire, c'est une espèce de monstre. Et c'est vraiment plusieurs créatures qui se côtoient dans cet univers avec des gens qui sont extérieurs, puisque Jérôme va à une terrasse de café, il y a ses copains qui se moquent de lui en disant allez, sors de chez toi et tout. Et puis juste à côté, la page d'après, on voit dans la partie historique, donc des espèces d'aigles avec des caméras intégrées dans les yeux en train de se moquer des soldats. Donc c'est une BD assez, comme dirait Xavier, assez étonnante.
Je ne l'ai pas dit.
Je dirais que qu'elle est singulière et ça, en tout cas, ça mérite de s'attarder un petit peu dessus. Au moins, faites-vous un avis en la consultant dans les librairies, ça vaut le détour. Donc ça s'appelle Retranché. C'est une bande dessinée par Cafard, c'est un one shot édité chez Ankama Édition sous le label Araignée. On va attaquer maintenant un autre genre, c'est le genre des zombies. Avec Ma vie de zombie, scénarisé. Attendez, je prends mes notes, parce que je change de papier là. Voilà. Ma vie de zombie, scénarisé par Sébastien Vioza et dessiné par Raphaël B. Toujours chez Ankama et toujours dans le label Araignée. Alors ça raconte l'histoire de Léon, qui est gardien de cimetière. Et ce qui devait arriver arriva. Un type qui n'avait rien à faire en dehors des tombes, donc un mort vivant, le mort à la main. Mauvaise situation, hein. Léon tente malgré tout, parce qu'on le devine, il va devenir lui aussi un mort-vivant. Il tente de garder le contrôle sur son lieu de travail, le cimetière. Donc il ne faut pas qu'il y ait les morts qui sont enterrés. Donc il ne faut pas qu'il s'en aille. Et il essaie de masquer à ses proches sa dégénérescence physique également. Alors, on voit que le dessinateur, c'est un fan des ambiances à la Romero. On a les lieux communs des histoires de zombies. Alors, les zombies, c'est pas du tout 28 jours plus tard, hein, les infectés qui courent. Hein. Non, là, c'est les vrais zombies de Romero, genre les marches de traviole avec les bras devant. Après, c'est plein de...
Ce que tu me décris, c'est un raver, hein, manque plus que le timblème.
Oui, c'est un technival. Et donc on a les plaines désertiques du cimetière avec les tombes et les zombies qui marchent en direction de l'observateur. Bon voilà, ça c'est le truc obligé quand tu t'attaques aux zombies. Et on a aussi la dimension encore une fois cronenbergienne là-dedans, puisque c'est on voit le mec qui devient zombie de l'intérieur, à tous les sens du terme en tout cas. On va voir qu'il a quelques blessures qui donc ne cicatrisent pas, et c'est gênant quand il y a la cervelle qui s'en va, il faut la remettre dans la tête. Bon. Pas mal d'humour gore de ce côté-là. On va voir que ses goûts alimentaires vont changer. sa façon de gérer les son entourage aussi.
Bon, on a pu attendre la passer par Halloween ce sujet.
Ah, y a plein de blagues sur la mort, sur les morts qui doivent rester là où ils sont, alors que le personnage principal s'adresse aux morts un peu comme un père qui refuserait de donner la permission de minuit pour qu'il s'en aille. Et tout. Non, non, vous êtes là, vous restez ici, les morts ça bouge pas, alors que lui il est quand même un peu mort lui aussi. Bon, c'est assez rigolo. C'est gore, hein, on va pas se le cacher, c'est l'humour noir. Bon, ça vaut le détour aussi, ma vie de zombie, découvrez quelqu'un qui devient zombie par ses yeux à lui. Donc on a quelques scènes assez marquantes à ne pas mettre devant toutes les mains, bien sûr. Donc il s'agit de ma vie de zombie, scénarisé par Sébastien Vioza et dessiné par Raphaël B. chez Ankama, la belle araignée. Et l'occasion pour moi de signaler, puisqu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, le dernier 12e tome de la série Death Note qui tient ses promesses, puisque ça c'est la vraie fin, avec une vraie conclusion, et elle s'est faite attendre. C'est sorti le 3 octobre dernier, c'est une fin logique, et on va dire que l'intrigue se clôt magnifiquement à la hauteur de la qualité du scénario.
En attendant, on tient à saluer un sérieux coup de chapeau au mangaka, au dessinateur Star qui est derrière, parce qu'il a réussi à échapper à toute cabale de tout possesseur actuellement d'un carnet Death Note, puisqu'on n'a pas pu le photographier.
Oui, c'était un gars qui refuse d'être photographié, donc il fallait voir les files d'attente pour les dédicaces à la Japan Expo, puisqu'il fallait entrer dans un box, et tous les appareils photo étaient interdits, et même on connaît des journalistes qui l'ont approché pour une interview, ils ont dû se contenter de photographier ses pieds ou ses mains.
Bon, c'est dans le trip de la BD. Hein.
On nous a fait une description physique assez lointaine pour nous visualiser le bonhomme. Apparemment, il aurait un lointain lien de parenté avec Roswell pour la forme de la tête. Donc, c'est une série de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, le dessinateur. Death Note, tome 12.
On en reparle le 8 novembre.
Le 8, Manu viendra nous en parler en long, en large, en travers de la série animée, de la saga manga et des films et du, voilà. Sachant que c'est pas le dernier tome, j'ai menti, puisqu'il y a un 13e qui, c'est un peu comme 13 l'enquête. Puisque ce sera un tome en complément pour élucider quelques micro-intrigues, qui est machin, tout ça, bon, voilà. Donc moi j'en sais pas plus, hein, donc ce sera l'occasion de poursuivre un petit peu la série Death Note. Donc 12e tome, dernier tome, chez Kana, d'Arcana. Enchaînons. Donc maintenant, nous allons parler des ventes DVD, puisque avant de parler cinéma, puisque nous avons un petit...
C'est très simple, hein, on va sur le site de la FNAC.
Oui, voilà, les 10 meilleures ventes en DVD, donc je vais commencer par le 10e.
Hein, non, il n'y en a que 5.
Non, il y en a 10. Alors c'est bizarre, c'est dommage que du sport soit pas là. Bon, tant pis, on va attaquer. Donc le numéro 10, donc c'est le coffret intégral de la saison 6 de Oz, la série de Tom Fontana. Donc je l'ai acheté. Je suis à la saison 5 pour l'instant, j'ai pas encore fini. C'est une série qui est vraiment de la balle. Là, en numéro 9, La petite maison dans la prairie. Oh, coffret intégral de la saison 9. Ça
s'achète.
Ouais,
il y en a qui captent pas M6.
Ça s'achète, la saison 9 de La petite maison dans la prairie. Il y a des
toujours moins cher qu'acheter des VHS.
Visualisez-vous des gens qui donnent de la thune pour avoir ça en DVD quand même. Hein. Numéro 8, Soyez sympa, rembobiné, la comédie de Michel Gondry. Numéro 7. Battlestar Galactica. Oh. Alors là, par contre, c'est pas précisé quelle saison.
Ça doit être le téléfilm, non?
Ah, certainement, alors. Ouais, certainement, si c'est pas précisé, là. Ça devait être ça, ouais.
Le Riser, là, qui passe à la télé.
Numéro 6, Soleil Vert de Richard Fleischer.
Yeah.
Ah oui, voilà, qui vient d'être réédité.
Ah. Oui,
Okay.
Enfin bon, c'est vrai que c'est pas un des, même s'il est assez connu par les fans, c'est pas un des films les plus mainstream quand même. Hein. Bon, certes, il y a Charlton Heston, mais.
Eh oui.
Et maintenant, nous allons passer au numéro 5. Qui dit numéro 5 dit top. Et qui dit
top, le top 5. Numéro 5.
Spécial dédicace pour vous les filles. Sex and the City, l'intégrale des saisons 1 à 6, édition collector, boîte à bijoux. La série de HBO, deux séries HBO dans ce top 10.
Numéro 4.
Le film de Edward Zwick, que nous avons chroniqué sur cette antenne, Blood Diamond, édition simple, avec Leo DiCaprio et Jimon Hounsou.
Numéro 3.
Les Desperate Housewives, saison 4, volume 1, c'était la première moitié de la série, donc la première moitié de la saison 4. Donc c'est la saison 4, c'est la saison qui n'est pas diffusée par M6, mais qui vient d'être terminée sur Canal+.
Yes.
Numéro 2.
Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas trop saisi. Lettre d'Iwo Jima de Clint Eastwood. Peut-être parce qu'il y a l'échange qui sort, je sais pas.
Non, à mon avis, c'est tous les fans de Japanimation qui se sont trompés. Ah, en plus, il y a Clint Eastwood dedans. Non, il est réalisateur. Il a travaillé qu'avec des Japonais.
Oh. Ouais, c'est, non, ce qui est bizarre, c'est pas pour la qualité du film, bien sûr, mais pour le fait qu'il soit sorti il y a un moment déjà.
Ouais, surtout, surtout qu'il n'y a pas eu de retour de promo.
Ouais, ouais.
Comme quoi.
Numéro 1.
Blade Runner.
Ah non.
Si.
Mais putain, mais j'ai acheté un coffret intégral et tout il y a un an.
Bah c'est celui-là.
Non.
L'édition.
Si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là.
C'est l'édition Final Cut, édition collector de DVD.
C'est le nouveau. C'est la nouvelle. C'est le nouveau.
Non. Non, non, mais là où tu as raison, c'est que d'avoir acheté le méga coffret avec les 7 versions dedans, puisque celui-là, bah, c'est juste l'édition collector avec juste 2 versions.
Oh, bon, j'ai eu peur. D'ailleurs, vous savez quand est-ce que la bande son est arrivée en disque? Elle est pas sortie au moment de la première version du film, elle est sortie en 92 lors de la sortie du Director Scott. Bande son faite par Vangelis.
Et alors, quel est le nom de famille de Vangelis?
Bon, je l'ai oublié. En tout cas, là-dessus, c'est Demis Roussos qui chante.
Alors, du sport?
Papa Natasiou.
Papa Tanasiou, j'aurais dit, moi.
Ah, ouais, c'était un gros Papa fan Tanasiou. Des Aphrodite Child.
Bah, c'était les Aphrodite Child.
Ah oui. Tales from the Future. Vangelis featuring Demis Roussos.
Spell code to
La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Tropic Thunder aujourd'hui, tonnerre sous les tropiques. Alors, tenez-vous bien, un film de et avec Ben Stiller, avec aussi Robert Downey Jr., ouais. Jack Black, Nick ouais. Nolte, Tom Cruise, ouais. Matthew McConaughey, John Voight, Alyssa Silverstone, Jennifer Love Hewitt. Bon, le dernier, c'est les caméos. Hein.
D'accord.
Alors, lors d'un tournage dans la jungle d'un film de guerre hollywoodien, d'après une histoire vraie, une troupe d'acteurs emmenée en pleine jungle, en tournage commando, se retrouve aux prises avec une véritable armée ennemie.
Ces ah, acteurs, merde.
Ouais, c'est ballot. Ces acteurs ont un... au début, évidemment, ils croient que c'est du faux. Hein. Ces acteurs ont un souci, ils ont tous un ego surdimensionné. Ça aide pas. Alors dès la scène d'ouverture, on comprend que c'est de l'humour ultra référencé aux films de guerre. Hein. Donc t'as du Platoon, Apocalypse Now et tout. Mais alors au début, tu connais pas le pitch de départ, tu peux penser que c'est un truc à DreamWorks ou à la Scary Movie, tu vois. C'est allez, on enquille les références, ce film-là c'est fait, on passe au suivant ou à la Hot Shot. C'est pas du tout ça en fait. C'est il y a un sous-texte de film de guerre derrière. Parce que justement, les personnages, les acteurs dans le film s'inscrivent dans cette tradition-là, donc ils sont obligés de faire des grosses allusions. Mais comme c'est Ben Stiller, donc c'est par exemple il y a Ben Stiller, il est criblé de balles comme Willem Dafoe dans Platoon. Bon, après le passage, il fait 5 minutes parce qu'il a 45 000 balles dans le corps. Bon, tu rigoles, mais bon voilà, c'est pas le but du jeu de faire de la référence à gogo. Après tu prends connaissance à les personnages, donc à Jack Black, c'est l'acteur qui joue avec son cul un peu à la Jim Carrey, qui est à la recherche d'une reconnaissance pour un vrai statut d'acteur. Il est bourré à la drogue, bon voilà, il est en crise de manque pendant tout le film. Tu as donc Ben Stiller, c'est l'actionneur pur à la Bruce Willis, donc lui il va de bide en bide sur les derniers films qu'il a fait, notamment la série des Scotchers, hein, donc ça se passe dans une planète glaciaire, donc il en est aussi d'ailleurs sur le site du film, tu peux aller sur le site officiel de l'acteur et télécharger les fonds d'écran. Dans un des films de la série Scotcher, on le voit avec un, donc c'est en plein hiver polaire avec un gros vêtement avec de la fourrure, il tient une mitrailleuse d'une main et un bébé dans l'autre. Admirez la référence. le troisième larron.
The Killer.
Non, Arbold.
Arbold, pardon.
Et le troisième larron, donc c'est Robert Downey Jr. qui incarne Kirk Lazarus. Acteur multi-oscarisé, adepte de la méthode Stravinsky, hein, qui consiste à puiser au fond de soi les expériences qui vont te faire incarner encore mieux un personnage. Donc lui, comme il incarne un black, bah, il va se faire pigmenter la peau, hein, dans une opération chirurgicale, et puis il va s'exprimer avec l'accent noir. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour le film, c'est que c'est une comédie très très fine. C'est assez émouvant aussi, c'est un mélange entre humour, parfois un peu lourd, mais pas trop, avec des passages vraiment émouvants où tu vois que ce sont trois acteurs qui se cherchent. Un qui est à la recherche de reconnaissance, un autre qui, à force d'interpréter jusqu'au bout des personnages au bout de la rupture, et ben il sait plus trop qui il est, tout ça. Donc ça va faire pas mal de situations cocasses, sachant que quel que soit le personnage, personne n'est ce qu'il paraît être au départ. On a par exemple une scène inénarrable où justement le réalisateur se laisse convaincre par le vétéran de la guerre qui a écrit le bouquin dont est inspiré le film dans le film, d'aller plonger ses acteurs en pleine jungle pour leur apprendre un peu, pour leur dire d'avoir des couilles et puis pour avoir des situations vraiment vraies et tout. Et là, il fait le speech aux acteurs, il dit « Ah, c'est bon, vous êtes plus des gamins », et là, il les pose sur une mine. Et là, il y a Ben Stiller qui dit « Ouais, mais moi, je m'y connais, j'ai fait gaver de films de genre, regardez, ça, c'est une fausse tête et tout, voilà. » Et là, il commence à lécher les vis, l'intérieur de la tête et de regarder. Bon, c'est un peu chaud, mais sinon, c'est du faux, ça se voit. Toute la moitié du film, ils savent pas que c'est du vrai, donc ça, c'est assez rigolo. Et on a aussi pas mal de scènes, mais vraiment qui sont costauds au niveau pertinence et tout, tu vois, le personnage de Ben Stiller qui réussit à avoir une rédemption au niveau jeu d'acteur, qui se prend sa tôle par le fameux Kirk Lazarus qui lui apprend carrément son métier d'acteur sur le terrain, et après y avoir d'autres scènes qui vont le mettre en valeur parce que bon, ils sont tous à la course à Oscar, enfin certains. Et alors Ben Stiller, il fait jouer aussi ses petits copains, donc j'ai mentionné, bon, il y a Matthew McConaughey qui est un peu de son agent, et puis on a surtout un Tom Cruise ce que tu mets à facilement une demi-heure à reconnaître, parce qu'il est chauve, il a un peu d'embonpoint, il est barbu, et c'est le producteur du film, et il a des répliques assez cocasses, genre « je vais t'enfoncer mon poing si profondément dans le cul que la moindre putain d'idée que tu auras pour ce film devra passer par mon alliance ». Alors, selon Claire Tom Cruise, dans le film, il passe son temps à danser en mettant la musique de son portable à l'oreille. Il n'arrête pas de se toucher les burnes et balancer des journes partout. Donc, c'est super. Après, alors, tu dis, oh, il est bien ce personnage. Et après, tu vois que c'est Tom Cruise. Oh! Donc, Tonnerre sous les tropiques, tu te marres pour les bonnes raisons. C'est une comédie intelligente, fine et vraiment bien pensée. Il est,
enfin, comme tu l'as dit, tu pars si c'est fin.
Ouais, mais t'as un sous-texte et un propos, et un but derrière dans le scénario. Il est vachement basé sur les personnages également. Et tu vois que c'est le sous-texte, ben voilà, c'est Ben Stiller à travers son personnage. Il dit, bon, il a été cantonné toujours à un genre. Et puis bon, ce serait cool qu'il puisse côtoyer des acteurs d'autres genres et être reconnu pour sa juste valeur et tout. Donc ça, c'est le sous-texte du film. Après, quand tu sors de là, t'as la banane. T'as pas l'impression d'avoir été pris pour un con, genre les pastiches bêtes et méchants, même si on adore ça, la série avec les Drevin, y a-t-il un flic, c'est pas du tout ça, c'est pas le même jeu registre, c'est beaucoup plus c'est moins, on cherche moins la quantité de gags. Y a vraiment des passages dans le film, des longs passages où tu ne marres pas, où tu dis tiens c'est rigolo parce que les personnages sont bigger than life, mais tu ne marres pas aux éclats après, ça repart évidemment. Donc Tonnerre sous les tropiques est un excellent divertissement de et avec Ben Stiller, avec Robert Downey Jr. énormissime, Jack Black toujours égal à lui-même, caca pipi prout, Nick Nolte qui interprète un vétéran du Vietnam mais génial, Tom Cruise, ils sont tous géniaux. Tonnerre sous les tropiques, c'est sorti cette semaine ou la
semaine dernière,
cette semaine.
Ok, mais moi je vais vous parler plutôt de La Loi et l'Ordre.
Alors juste une question.
Oui.
Est-ce que ça a à voir avec la série Law and Order ?
Strictement aucun rapport.
D'accord. Oh mince.
Et non.
Tant mieux pour Dick Wolf.
Ouais. Du Sport venait de préparer une bio complète sur tous les personnages qui sont que des acteurs humoristiques et tout. Oh,
de toute façon, vous pouvez le voir, c'est très humoristique. Non, ceci, hein. Effectivement, La Loi et l'Ordre, c'est deux détectives vétérans de la ville de New York qui doivent travailler ensemble sur un meurtre qui leur rappelle une vague affaire passée. Bon, un serial killer ou alors un accusé peut-être innocent. Bon, bref, vous saurez tout dans La Loi et l'Ordre. Titre français qui n'a strictement aucun rapport, comme je disais, de la série du même nom. Désolé, Xavier. En effet, cette toute... il faudrait que je réécrive mon texte à la machine parce que j'ai une écriture de merde. Cette toute dernière super production met en scène pour la quatrième fois nos chers Al Pacino et Robert De Niro. Le film est réalisé par John Avnet. John Avnet, effectivement, comme nous dit Philippe, baigné de tomates vertes, c'est sympa, mais j'ai revérifié sa filmo, il y en a pas beaucoup, et ça tourne surtout des films genre Red Corner. Bon, là, on
a
tout
de suite cool.
Ouais, okay. Bon, bref, le film donne, effectivement, puisque c'est le but, la part belle à ces deux acteurs qui, malheureusement, je vous l'avoue, tournent un peu en roue libre.
Ah, mais tu t'as pas dit avec qui c'était ?
Je viens de le dire tout à l'heure, un certain Al Pacino et un Robert De Niro.
Ah oui, mais t'as dit que c'était la quatrième fois qu'ils tournaient ensemble ?
Tout à fait.
Et c'est curieux, parce que normalement, il y a eu Le Parrain 2 où ils avaient aucune scène ensemble. Il y a eu Hit.
J'ai pas dit qu'ils ont tourné les scènes ensemble. Ils ont joué dans des films où ils sont tous les deux crédités au même film.
D'accord. Mm-hmm. Chez moi, on n'a pas la même définition.
Et c'était lesquels alors, à part Hit et Le Parrain 2 ?
Tu verras parce que t'as un quiz après.
Ah,
je vais pas te donner la chance d'aller
d'accord,
trouver.
Ok.
Bon, d'ailleurs, puisque nous avons Philippe qui adore les seconds rôles, je suis désolé. Moi, je vais vous vraiment trouver absent. Bon, vous avez 50 cents. Vous voulez que je vous fasse la blague à 50 centimes, ça y est.
Oh,
c'est
bon. Oh.
Donnie Wahlberg reste dans ses quotas. C'est une série B, donc c'est vite vu, c'est vite digéré. Et excusez-moi, on l'oublie. Hein, veuillez passer votre chemin. Bon, bref, en échange, je suis désolé. Quand je vois la rentrée cinématographique de ce mois d'octobre, que je trouve personnellement foisonnante, je trouve ce titre-là, tant pis, allez voir ailleurs. Vous avez plein d'autres films, des Chop Chop, Tonnerre sous les tropiques dont tu viens de parler, vous avez Le Crime et notre affaire qui vient de sortir cette semaine, vous avez Mesquine partie 1 qui sort la semaine prochaine, vous avez le Bond, vous avez le Tokyo qui vient de sortir aussi cette semaine qui a l'air monstrueux. Bref, il y a plein de choses à voir. Le Coluche se fait assez mitigé dans l'ensemble. Mais bon, sans compter les séries télé qui redémarrent, n'est-ce pas, Duce?
Tout à fait.
Bah, ah, ça, okay. On verra okay. Après.
Qui finit, c'est Nip Tuck, c'est fini, bordel de merde. On doit patienter un an.
Si tu veux du trash et du gore, t'as aussi Dexter qui recommence.
Ah, d'accord.
D'accord, donc tu disais que tu voulais nous mettre à l'épreuve.
En fait, ouais, c'est la cinquième saison d'Oz qui est sortie en DVD.
Sixième, j'en ai parlé tout à l'heure. Sixième, je l'ai acheté. Et en fait, c'est quoi le titre original de La Loi et l'Ordre dans l'Ordre?
Ben vous le saurez.
Ah merde, je te flingue ton quiz là, pardon.
Non, je vais pas vous aider. Je vous donne plein de titres. Et vous me dites ou Patino ou De Niro ou les deux ensemble. Vous connaissez le concept. Alors si je vous dis, je vous l'ai fait... chers auditeurs, à la mode québécoise, je ne vous donnerai pas l'accent. C'est-à-dire
sans
que...
jeu d'Ivix.
Non, pas du tout, pas du tout. Je suis carrément allé sur IMDB, etc. J'ai pris les vrais noms, j'ai fait mes propres traductions.
Ah d'accord, ok.
Débrouillez-vous.
D'accord.
Alors,
si je vous dis navigant.
Navigant.
Oui, navigant.
Ah, il faut trouver le mot anglais de navigant.
Ouais, tout à fait.
Sailing.
Non.
Allez, ah, Al Pacino Cruising.
Exactement. Un point pour Thomas.
Un pour Thomas.
Bon, allez, les intouchables.
De Niro, les incorruptibles.
Exact. Le Cap de la Peur.
Cape Fear, c'est le remake avec De Niro par Scorsese.
Parfait. Le Dieu du Père. Deux.
Le Parrain 2, c'est. Oh.
C'est Godfather.
Les deux.
Exactement.
Ah oh merde, je croyais avoir le point, tant pis.
Tracy la bite.
Dick Tracy si. Et Pacino.
Pacino. L'épouvantail. Ah ouais. Ou je dirais même mieux, le corbeau qui fait peur.
Scarecrow.
Voilà.
Scarface, Pacino.
Non, Scarface.
Scarface, c'est la gueule
c'est,
avec
la cicatrice. Alors, mais Scarecrow, c'est le corbeau.
C'est oui.
Scarecrow.
Scarecrow.
C'est
l'épouvantail.
C'est l'épouvantail, pardon.
Et c'est Pacino, messieurs dames, vous ne l'avez pas trouvé.
Dommage.
Alors je vous dis, salut maman.
Hey mom.
De Niro,
De Niro, tout à fait. Point pour encore pour Thomas. Le gars de l'intérieur.
Inside Man, Al Pacino.
Faux. Enfin, presque faux. Pacino, tout à fait Thomas, mais ce n'est pas Inside Man, c'est The Insider.
Avec Russell Crowe. Ouais.
Inside Man, c'est le dernier Spike Lee.
L'avant-dernier.
Ouais, entre autres. Alors, la tuerie juste. La juste tuerie. Tabernak.
Juste tuerie.
Parce que c'est pas parfois, ce serait pas. The True Killer.
Alors en fait, ce sont les deux. C'est The Right to Kill qui est entre autres La Loi et l'Ordre en français.
Ah d'accord.
Ah putain.
Salaud.
Ah, il nous a eu. Bon, merci.
C'est pas fini, j'en ai encore.
Il y en a d'autres, attends.
Et j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Bon, si je vous dis chaleur.
Heat, ben les deux.
Les deux, ouais.
Brouillon en arrière.
Backdraft.
De Niro.
De Niro. Bon, café chinois.
Challenge Coffee, Al Pacino.
Parfait. Une mer d'amour.
Ah, Sea of Love, Pacino.
Voilà. Et moi, celui que je préfère, c'est le boxeur et le bigorneau du taureau.
Raging Bull. Non,
ce n'est pas le taureau enragé ou enrageant. C'était trop facile.
Bigorneau du taureau.
Ouais, le bigorneau du taureau.
Bulls.
Je répète, le boxeur et le bigorneau du taureau qui, à mon avis, vaut bien sa palme.
The boxer and the...
De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre ou les deux déjà.
Je sais pas, De Niro.
Ok. Est-ce qu'il y en a un qui contredit? On sait jamais.
Non.
De Niro, à mon avis, si c'est une palme.
Effectivement, c'est De Niro. Et le film en français s'appelle Rocky et Bullwinkle. Ouais. Petit film, petit dessin animé pour lequel il a prêté sa voix. Qui est très bien. Qui est très très bien. Ouais. Qui présente, un castor et un élan.
Un élan. On va dire que De Niro, même s'il a tourné dans des monstres, il a fait beaucoup d'inégalités par rapport à Pacino quand même.
Ouais, enfin je sais pas, moi je mets bien ce film, c'était sympa.
Ouais.
Ouais. Bon, on parle de série, hein.
Non, non, on va parler de bouquins d'abord. Et je tiens à signer avec Thomas, allant eu on la main à 11 points, à 3 points du sport 1. Quelle honte.
Tu aurais été salaud, tu aurais mentionné aussi Gang de requins. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux.
Oui,
deux...
mais quand tu fais la traduction tout de suite, rapidement, c'est Gang de requins, tout de suite, vous savez qui c'est, quoi.
D'accord.
Moi, le but, c'était, avec les titres, vous tromper.
Du sport ?
Ouais, bon, 13h12, alors on va pas s'étendre de trop sur les bouquins. Alors, le point commun, deux points communs, il y a Waiting dans le titre et ça parle de musique. Le premier, Waiting for the Sun, c'est paru aux éditions Alia. C'est écrit par un Anglais, Barney Hoskins, qui était un collaborateur de New Musical Express, également la revue Mojo, et qui a vécu pas mal d'années à Los Angeles, donc, et qui a décidé de faire ce bouquin qui va raconter l'histoire de la musique à Los Angeles depuis les années 40 jusqu'environ aux années mi-90, c'est-à-dire 95. Pour être un peu plus exact, vu que le bouquin est sorti en 96, version originale. Alors, c'est un voyage qui est très bien documenté, on va dire, mais qui s'attache également surtout aussi au côté sociologique de la ville de Los Angeles, hein, qui déborde un petit peu du monde de la musique. Bon, c'est bien entendu la musique à Los Angeles qui est le sujet principal, mais il arrive à déborder un petit peu également et prendre en compte des données un petit peu plus cohérentes et complexes, mais qui ont rapport avec ce qui se passe un petit peu là-bas. Et bien entendu avec la voisine du Nord qui a également été une des grandes villes de Californie à faire parler d'elle dans la musique et dans la drogue également et dans plein d'autres choses également. Je veux parler de la contre-culture.
Tu veux parler bien sûr de...
C'est San Francisco.
Ah bon, c'est la capitale. La capitale de la Californie.
Sacramento,
ouais, non, mais bon, c'est pour parler un petit peu des deux grandes villes hein, de Californie qui ont vachement fait parler d'elles l'une et l'autre à un moment donné ou l'autre. C'est également très intéressant parce qu'il faut savoir qu'à Los Angeles, il y a Hollywood et donc l'industrie du cinéma, car l'industrie du cinéma est très liée en fait à la création des fois de maisons de disques qui par la suite ont prospéré. Sont devenus une entité un petit peu autonome, hein, mais qui avait un gros poids dans la musique. L'exemple le plus flagrant étant, bien entendu, la Warner, hein, Jack Warner, hein, le producteur de nombreux films dans les années depuis pratiquement le début du cinéma, et dont la branche musique Warner, bien avec quand même des artistes comme Sinatra, comme Frank Zappa et beaucoup d'autres. Quoi. Donc c'est assez intéressant parce que dans ce bouquin, au niveau de ce qui est de la musique pure, Barney Hoskins, qui est anglais, donc a quand même un certain recul par rapport à la production locale, on va dire. Et il faut encore savoir en plus que, comme c'est bien décrit au niveau de tous ceux qui décident un jour d'aller en Californie, d'aller sur ce coin de rêve, ces plages de sable fin, ces surfeurs blonds et tout. D'ailleurs, c'est marrant, ils sont vachement tous blonds, quoi. Et bon, il faut aussi dire que la Californie, historiquement parlant, était l'une des bonnes expériences de ce que pourrait être une jeunesse blonde et tout, sans gens de couleur et tout, comme c'était l'occasion. Par exemple, dans les films de Hollywood, où on voyait jamais de black, ou alors étaient toujours dépeints comme des êtres malfaisants, des petites choses pas très sympathiques. Et donc, c'est vraiment très très intéressant parce que Barney Hoskins a réussi justement quoi, à faire s'entremêler un petit peu ces histoires. Alors, il y a de grosses thématiques quand même, assez surtout liées à l'évolution musicale et aux différentes décennies qui se sont succédées, avec bien entendu le point d'orgue des années 60 et les années 70. Alors Los Angeles également, les Doors et tout. Il n'est pas tendre hein, avec certains artistes, c'est-à-dire qu'il peut être très très caustique, très très négatif on va dire, par rapport à certains artistes. Hein. Jim Morrison dans ce bouquin n'est pas du tout dépeint avec son auréole habituelle, mais plutôt est descendu un petit peu en flèche pour ce qui devait être une des caractéristiques de son personnage en tant qu'être humain, d'autres non plus, et c'est assez rigolo parce que c'est quand même
assez complet, hein. C'est quand même du gros bouquin écrit assez petit. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire des Eagles depuis le début, eh bien c'est dans ce bouquin que vous le saurez. Le deuxième bouquin, et là tu peux balancer la musique à la limite, hein.
D'accord. On va faire une interruption musicale.
Vas-y.
I'm waiting for the man. Waiting for the man, Lou Reed.
Et également Waiting for the Man, histoire des drogues et de la pop musique par Harry Shapiro. C'est sorti aux éditions Camion Noir. Et donc, eh bien, c'est un petit voyage historique, mais c'est également un constat. C'est-à-dire que c'est une étude à grande échelle, avec un angle un petit peu inédit, parce que bon, ça nous raconte également, ça essaie de nous décrire les effets supposés des drogues et tout ce qui a été induit par la suite. Alors de l'historique, on apprend que l'héroïne, ça date de 1898, hein, des laboratoires de Friedrich Bayer, bah ouais, Bayer, hein. une boîte chimique bien connue.
Ainsi inventeur de l'aspirine et du cyclone B.
Et de beaucoup d'autres choses. Et au départ, l'héroïne, bah, ils avaient trouvé ça pour justement avoir un produit qui n'ait pas les mêmes effets secondaires que la morphine qu'ils distribuaient, qui était en vente libre, enfin pas en libre, mais enfin sous ordonnance, quoi. Tu pouvais avoir de la morphine ou des composés à base d'opium. L'amphétamine, ça date de 1887, hein, par les labos fabricants Smith, Klein and French, qui la synthétisent. Et en 1932, les amphétamines.
Smith Clyde est toujours une très très grosse entreprise. Hein.
Bah oui, toujours. Hein. Oui. Non. Les labos cités, c'est. Il y a Merck également pour la fabrication des amphétamines, hein, qui a relancé un petit peu la fabrication des amphétamines. En 1932, il y a un inhalateur nasal benzédrine, hein, qui soulage les symptômes de refroidissement, du rhume des foins et de l'asthme, du speed pur, quoi. Donc, pratiquement. Le LSD-143, ça c'est l'histoire d'Hoffmann, on connaît bien sûr. Le MDMA, il date également du début du XXe siècle, en fait, mais il était réactivé vers la fin des années 60, début des années 70, et c'était un médicament qu'on donnait aux bonnes femmes, aux nanas qui avaient soi-disant des problèmes de couple, qui se sentaient pas bien, des petites choses comme ça, histoire de les ramener dans un monde un petit peu, ouais, avec cette histoire d'antidépresseur euphorisant, quoi. Et c'est devenu l'euphorisant qu'on connaît dans la musique actuelle. C'est très très bien foutu, et parallèlement à ça, il y a également toute l'histoire de la prohibition de ces différentes drogues, ce qui leur arrivait, leur interdiction, la lutte des brigades spéciales contre la drogue, comment ils ont fait ça. Bien sûr, le rapport histoire des drogues et de la pop musique n'est pas innocent, parce que, eh bien, faut savoir que pendant longtemps, le musicien a été celui qui est bohème, qui rapporte le stupre et la drogue dans notre ville. C'était tous des camés, bref. Mais on en a appris aussi beaucoup, bien entendu, sur tous les gens qui consommaient quoi. Il faut savoir quand même que tous les plus grands jazzmen fumaient de la ganja tranquille, la marijuana. Certains étaient même réputés plus pour la qualité de leur ganja que pour leur jeu de musicien. Et pas des moindres, hein, Armstrong, Gillespie, Duke Ellington, tous, absolument pratiquement tous fumaient de la ganja. Entre autres, je vous parle pas des autres produits. Bon, c'est un bouquin qui est vraiment très très bien foutu, et il y a quelques petits chapitres découpé en deux parties, avec quelques mentions spéciales sur quelques cas particuliers, comme tels que la toxicomanie féminine vue à travers deux expériences, celle tristement connue de Billie Holiday et celle un petit peu moins connue de Anita O'Day. Donc c'est un bouquin à conseiller pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce rapport qu'il y a toujours eu. Il y a le passage très intéressant, hein, de la campagne de Nixon dans les années 60-70, hein, pour faire pression sur les radios privées aux États-Unis, sur les annonceurs publicitaires à la télé, pour que justement ils arrivent à cautionner la lutte antidrogue, qui en plus s'appuyait, hein, sur des rapports médicaux quant aux effets supposés des drogues, qui étaient complètement erronés, hein. C'est-à-dire c'était vraiment une entreprise plus destinée à faire peur à l'opinion publique, hein, et à la maintenir comme ça un petit peu aux abois par rapport à ces jeunes qui dévergondaient notre nation dorée, que parce que il y avait de réels effets cliniques déjà prouvés. Bref, c'est un bouquin super complet. Waiting for the Man, histoire des drogues et de la pop musique, c'est paru aux éditions Camion Noir, écrit par Harry Shapiro, que j'ai pas vérifié, mais enfin, vu qu'il est bien renseigné sur tout ce qui s'est passé en Angleterre, il y a surtout ce qui s'est passé en Angleterre et ce qui s'est passé aux États-Unis, il a l'air d'être anglais, que ça m'étonnerait pas du tout. C'était quoi ça?
Extrait de l'album de The Orb, Oblivion. Des fois, il se tape des délires.
Ah ouais. Alors, du côté cinéma, vous n'êtes pas sans savoir que Mesrin, le premier, première partie donc du film de Jean-François Richet avec Vincent Cassel dans le rôle de Mesrin, ça sort mercredi. Hein, film en deux parties puisque la deuxième partie sort le 19 novembre. Yes.
Ouais, ouais, ouais,
hein, bon d'accord. Hein, okay.
Bah, le premier s'appelle L'instinct de mort et le deuxième La vie publique numéro 1.
La vie publique numéro 1, voilà. Deux titres hyper connus hein, ici en France parce que L'instinct de mort, c'est le titre du bouquin que Mesrin a écrit. Et Public Enemy Number 1, ouais, c'est un des films noirs les plus connus hein, de l'histoire du cinéma de toute façon.
D'ailleurs, il y a Vincent Cassel qui racontait une anecdote rigolote, c'est que il est en train de tourner avec Soderbergh sur l'un des deux épisodes de Ocean 13 ou 12.
Ocean 12.
Parce qu'il est dans le 13 aussi. Alors, okay. C'est pour coïncider avec la période. Et donc, il a dit à Soderbergh, tiens, il y a un projet de deux films sur Mesrin. Et donc, il y a Soderbergh, il lui dit, ah, c'est une mauvaise idée de faire deux films. Il faut plutôt s'attacher sur un aspect de la personnalité de Mesrin, en faire un seul. Entre temps, Soderbergh a fait les deux volets de Che Guevara.
Alors donc pour illustrer un petit peu tout ça, ben les chaînes de télé sont pas en reste, hein, bien sûr promotion oblige, hein, on va pas dire le contraire non plus. Alors déjà une soirée Vincent Cassel mardi prochain 20h45 sur Ciné Cinéma Premier avec excusez du PE les films Sur mes lèvres suivi de Agent Secret puis l'émission Borcrad cadre, c'est-à-dire l'interview avec Pierre Zeny qui est de bon goût on va dire, hein, Pierre Zeny un mec qui connaît le cinéma, qui aime bien le cinéma et pas forcément un certain style de cinéma, c'est ça qui est aussi assez intéressant avec lui. Shaitan et Irréversible, ça c'est vers 3h du matin quand même.
Oui, faut...
Hein faut, faut mettre le disque dur. Sinon, ça c'est plutôt spécial Mesrin, bien sûr. Alors ça commence sur Canal+, demain à 11h35 avec Mesrin la rencontre, talk show en direct avec Thomas Langman et Jean-François Richel sur Canal+, demain à 11h35. Sinon, mardi prochain à 20h50 sur Paris Première, l'occasion de revoir le premier Mesrin, celui d'André Del Genovese, hein, avec Nicolas Hilbert, qui est pas mal du tout, quoi. Je veux dire, bon, c'est un film de l'époque, hein, du début des années 80, mais on sent que tout le monde était bien impliqué. Et l'histoire était très très récente à l'époque, hein, c'est-à-dire que tout le monde avait en mémoire ce qui était arrivé, ce qu'on avait lu dans les journaux, l'annonce à la télé, à la radio, enfin un petit peu partout, quoi. Enfin bon, l'événement national, quoi. C'est pas mal pour les gens qui n'ont pas vu ce film. Bah, c'est un film tout à fait regardable, hein, même avec des scènes un petit peu bien remontées, quoi. Tu vois, la séquence avec le journaliste de Minute et tout là, ben dans le film, c'est bien. Il en prend plein la gueule, il y a pas de problème quoi, il s'en fait plaisir quand même quoi, et l'acteur qui joue Mesrin est vraiment bien quoi, moi je trouve aussi. Et ce sera suivi donc mardi prochain sur Paris Première après le Mesrin de André Genovese de documentaire Jacques Mesrin profession ennemi public. Planète Justice également mardi prochain à 20h45 avec deux documentaires, le premier Mesrin fragment d'un mythe et le vrai visage de Mesrin. Et enfin 13e rue, ce sera vendredi prochain à 22h20, pardon, c'est-à-dire après la sortie en salle de L'Instinct de mort, d'un documentaire également inédit, Mesrin, la traque. Ouais, tout ça pour Mesrin, ouais. This is tricky. Allez, des bandes dessinées, des séries inédites à la télé, j'allais dire. Avec le retour de Christina Applegate. Rappelez-vous, il y a 20 ans, quelle était la série dans laquelle elle tournait?
Une série,
mais alors, mais hyper connue, hein, que même ceux qui l'ont jamais regardée, ils connaissent, tu vois, avec son générique chanté par Frank Sinatra.
Ah, Getting Married.
Voilà, ouais, les deux enfants.
Et ben voilà, Christina Applegate jouait le rôle de la fille de Bundy. C'était la fille Bundy. Donc, et là, elle a quand même 20 balais de plus, donc 36 balais. Et elle fait son retour. Elle a été récemment nommée aux Emmy Awards, les derniers Emmy Awards. Elle était nommée, hein, donc Christina Applegate pour son apparition. Et bah, bien entendu, hein, son statut de nana qui tient la série sur son épaule, pratiquement sur deux épaules, Samantha ou Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Bon, c'est une série qui marche très très bien, si bien aux États-Unis que, eh bien, la chaîne a décidé d'en refaire une seconde saison qui est actuellement en tournage. Ça démarre conjointement sur, sur deux chaînes, pratiquement la même semaine. Sur Virgin 17 demain soir à 20h40 avec trois épisodes dont le pilote plus l'épisode qui s'appelle The Job et l'épisode qui s'appelle The Wedding. Et sur Fille TV vendredi prochain à 20h45, mais là uniquement le pilote Samantha Who avec Christina Applegate. L'histoire d'une nana, une nana qui perd la mémoire et qui donc doit apprendre à se reconstruire, à espérer de reconstruire une vie par rapport à une mémoire qu'elle a perdue. Tu vois, Dirty Sex Money, c'est sur Canal Plus jeudi prochain 20h50. Ça, c'est l'histoire d'une famille, d'une dynastie hyper riche aux États-Unis et qui emploie des moyens plus ou moins légaux pour bien gagner encore plus de pognon avec quand même une distribution haut de gamme, Donald Sutherland, Peter Krause, William Baldwin et beaucoup d'autres. Cette série vaut, paraît-il, par justement des situations trash bien délirantes, genre de truc qu'on se permet à la télé dans ce genre de série haut de gamme, c'est-à-dire bien filmé, bien léché, tout le monde est bien nickel, bien raccord. Et on peut se permettre un petit peu plus de trucs que dans un film au cinéma parce que bon, là, il n'y a pas de problème, quoi. Comme il y en a beaucoup, ça passera un peu plus inaperçu, quoi. On va dire, ce sera plus considéré comme un épiphénomène, on va dire. Enfin bref, ça a l'air vraiment pas mal du tout. C'est jeudi prochain, c'est la nouvelle série haut de gamme de Canal+, diffusée à partir de 20h50. On a également ce soir Journeyman, c'est-à-dire l'homme qui voyage, si j'avais dû traduire à la
québécoise,
à la JB, c'est sur M6 à partir de ce soir. Alors on peut dire que pour l'instant là, ils font plutôt bien pour les deux premières séries citées, mais pour la troisième, ils font un petit peu moins bien, ceux qui achètent les séries américaines, parce que là, la plupart du cas, c'est le cas de Journeyman, c'est des séries qui sont annulées, quoi. Celle-là, Journeyman, a été annulée par la NBC au bout de 12 épisodes. Il y avait 9 qui avaient été encore tournés, qui devaient être diffusés, qui n'ont jamais été diffusés. La série basée autour de Kevin McKidd, l'acteur écossais.
9 non diffusés. Est-ce qu'ils ont dû prendre l'avance à prod, les pauvres.
Kevin McKidd, donc, il joue le rôle d'un type qui, lui, a la chance de pouvoir, de temps en temps, faire des voyages dans le temps, quoi. Tu vois, justement, ce qui est vachement intéressant pour résoudre certains cas un petit peu zarbi comme ça, quoi. Alors, ça a plu à pas mal de gens. Il y a eu une grosse pétition pour que la série reste en place et tout, mais ça n'a pas suffi. NBC a décidé de lâcher l'affaire après 12 épisodes. Donc c'est regardable sur M6 dans la case les séries du samedi soir à 20h50 sur M6 ce soir. Journeyman avec Kevin McKidd.
Désolé, je suis pas pu m'empêcher.
Xavier. Dans le cas, dans le bouquet série qu'on achète et puis que se font annuler, quoi, comme ça, quoi, comme qui rigole.
Y a dans également le pack de 14, seulement 12 saisons.
Runaway, qui sera diffusé à partir de demain sur TF1, 15h05, donc dans la case où ils foutent plus ou moins des séries un peu policières, on va dire, c'est une série policière, mais elle qui n'a duré que 9 épisodes avec Donnie Wahlberg et Leslie Hope dans le rôle titre, c'est-à-dire l'histoire d'une famille qui est obligée de s'échapper pour prouver l'innocence de leurs parents accusés de meurtre.
Enfin, Leslie Hope, c'est Madame Jack Bauer.
Puis elle était également dans une série dont j'arrive toujours pas à me rappeler le nom, qui est un truc où elle était agent du FBI dans une petite ville de Géorgie.
Christine, on attend ton coup de fil.
non, mais ça me rappelle pas, c'était pas trop
son genre, quoi. Toi.
Et ça, c'est donc demain après-midi sur TF1 à partir de 15h05. Et sinon, il y a peut-être un petit truc qui peut être intéressant dans le registre sitcom, c'est diffusé ce soir sur TPS Star à partir de 22h50. Ça s'appelle The Big Bang Theory avec Kalei Cuoco, qu'on a vu dans Charmed. C'est des nouvelles de Charmed qui sont apparues dans les saisons 7, 8.
Tu vois IT Crowd?
Oui, oui, hélas.
Voilà, oui, bah voilà, c'est le genre de série pour geeks, mais avec humour accessible à tout
voilà,
le monde.
Voilà.
Oh,
voilà.
Bien.
Et il y a également donc Johnny Galecki et Jim Parsons, alors qui jouent justement le rôle de deux geeks, c'est-à-dire ce sont des scientifiques, ils sont très pointus dans leur domaine et tout, nickel et tout, mais dans la vie de tous les jours, c'est des laisse tomber, c'est pas la peine et tout. Et Kaley Cuoco, une magnifique blonde, bien hot, quoi, va le jouer le rôle de leur voisine et donc les confronter à ce qui se passe dans la vraie vie.
Seulement, tu oublies de dire pourquoi ça s'appelle The Big Bang Theory.
Ah bah ça, il faudra le découvrir en regardant la série. Donc,
c'est que tout simplement, les deux geeks doivent expliquer à la blonde la théorie du Big Bang.
Xavier, comment tu connais tout ça, toi ?
C'est ces geeks.
Ouais,
donc connais.
Non mais j'attends qu'ils disent lui-même. Allez, allez.
S'arrête pas d'en parler sur les forums, sur Slashdot,
ah,
tout ça.
Tu ouais. vois, c'est sur TPS Star donc ce soir à partir de 22h50.
Ah, merde, c'est encrypté.
Ah zut.
Danser.
Mais dites-moi.
Ouais, surtout, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Cher ami auditeur.
Je lance le générique de fin, je crois. Je vois qu'il s'est barré.
Il y a Guy JB qui veut dire un truc.
Oui, oui, mais bien sûr, vas-y.
Dis-moi, cher Thomas, est-ce que nos auditeurs qui auraient raté depuis le début, qu'auraient-ils donc raté ?
Eh bien, ils auraient raté l'interview de la dessinatrice Laurel, où il était question d'un dessinateur naturiste de Baden-Baden qui a fondé le mouvement scout. On a eu un quiz ciné tabernacle, top 5 sur les ventes DVD.
Il s'est fait avoir,
Snack.
C'était Baden Powell, hein, voilà.
Voilà. Du film de guerre avec un fond noir, du polar avec des vieux, des bouquins où on attend, des séries qu'on pas fait d'audience et des trucs pour les geeks. Comme d'hab. Oui.
Bah vas-y, continue, JB.
Donc, si nos chers auditeurs auraient raté le début de l'émission.
Non, mais t'as le conducteur rappelons. Sous les yeux.
Ah, mais c'est que je
c'est
ne
pas
je
doux.
Je ne sais pas.
T'as voulu faire le malin, tu bois le
oui,
calice.
De toute façon, à force, je le connais sans le lire. Nos chers auditeurs, non d'une mêlée, comme tu as marqué, ils ont marqué tout ça, tu as marqué aussi. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec des chroniques écrites. Mais aussi fouiller dans nos archives, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.tk. Si vous ne le savez pas, évidemment, Google, vous marquez Supplément Weekend. On est les premiers, comme nous dit Xavier, chaque semaine.
Yeah! Power Rank!
C'est tout à fait étonnant. Hein
non, non.
Vous écoutez FMR sur 89.1. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net.
En Ogg Vorbis. Et ceci dit, donc, juste avant de le signaler, la semaine prochaine, interview de Tot, normalement. Interview de Megalong, oui, directeur artistique des éditions Ankama. En attendant,
Oui.
Voilà.
On a un putain d'agenda là.
Oui, oui, faut dire qu'on avait interviewé Laurel. C'est pour ça que l'émission se termine super tard. Vendredi 24, donc vendredi de la semaine prochaine, Nico Henrichon sera à Toulouse à la librairie Album pour dédicacer Pride of Baghdad, on l'a vu en interview, mais aussi sa nouvelle série Hostile. Samedi, Serge Finot, Serge Carrère et West Engel seront là pour Cerber, là aussi à la librairie Album. Noisa, TC, Youssman, Chaotic System, Phenom, Tony, Tong, c'est pour une soirée drum and bass, vendredi 7 novembre au Bikini, mais Noisa, c'était le mec qui avait fait l'ancien générique du supplément week-end. Voilà, c'était la précédente saison.
La boucle est bouclée.
Voilà, samedi 8 novembre à la librairie Album Loïc Malnati pour Apocalypse, qui sort chez un nouvel éditeur qui s'appelle Daniel Maguin. On souhaitait avoir donc l'éditeur en interview, on n'a pas pu, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Samedi 15 novembre à la librairie JBR France, France Duchazot pour le rêve de Meteor Slim, ça sort chez Sarbacane. Et samedi 15 novembre à librairie Album, JD dédicacera My Way chez Chiaopan. JD, on l'avait reçu elle aussi. Voilà.
Dessinatrice chinoise.
Je cède la place à du sport. Ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine. See you.
Salut.
Ciao. Salut.